vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 25 octobre 1415, la bataille d'Azincourt. Monté sur le trône d'Angleterre en 1413, Henri V rêve d'une invasion du royaume de France affaibli par la folie de Charles VI et la guerre civile que se livrent Armagnac et Bourguignon. Durant l'été 1415, il débarque en Normandie avec une armée modeste mais solide et disciplinée. Il investit Harfleur qui tombe le 22 septembre. Mais la saison est trop avancée pour poursuivre les opérations militaires. Au lieu de rembarquer, il remonte à marche forcée vers Calais en brûlant tout sur son passage. Il lui faut faire vite. Car l'ost français, largement supérieur en effectif, souhaite l'arrêter sur la Somme. Les Anglais atteignent la Somme le 12 octobre. Incapables de passer à gué, ils longent le fleuve pour le franchir à la hauteur de Nesle les 18 et 19 octobre. Henri V parvient jusqu'au village de Maisoncelle, où il dresse son camp au soir du 24 octobre. Il ne dispose que de maigres effectifs, environ 1000 cavaliers et 500 archers. Les Français sont deux fois plus nombreux. À l'aube du 25 octobre, le connétable Charles d'Albret et le maréchal Boucicaut mettent leurs troupes en ordre de bataille non loin du village d'Azincourt. L'armée française manque néanmoins d'un chef indiscutable. En effet, par prudence, le roi et le dauphin sont restés à Rouen. Après une ultime tractation diplomatique qui échoue, les Anglais se mettent en marche vers 11 heures. Les archers transportent des pieux aiguisés, derrière lesquels ils peuvent se réfugier en cas d'attaque. Ils utilisent leur arc long d'une portée de 200 à 250 mètres. Face à eux, la première ligne française s'est également mise en branle. Les chevaliers portent une armure complète qui pèse une vingtaine de kilos. C'est une protection efficace, mais conçue pour le combat à cheval, pas pour la marche. Ils réussissent pourtant à progresser sur plusieurs centaines de mètres, en terrain boueux et sous une pluie de flèches anglaises. Pour les appuyer, les deux ailes de cavalerie s'élancent, mais les chevaux glissent sur le sol détrempé. Ils sont criblés de flèches. Des chevaliers pris de panique font volte-face et se jettent dans l'avant-garde française dont ils rompent les rangs. Profitant de la confusion qui règne dans les rangs français, les soldats anglais se lancent à l'assaut en brandissant des épées, des haches et des massues de plomb, dont un seul coup sur la tête peut tuer. Les deux premiers corps de bataille français sont mis en déroute. Cependant, au moment où Henri V croit tenir la victoire, Robert de Bournonville et Isambard d'Azincourt tentent une contre-attaque avec quelques hommes d'armes et environ 600 paysans. Ils entreprennent un mouvement tournant qui jette la panique parmi les Anglais. De crainte que les prisonniers ne profitent de la situation, Henri V les fait exécuter. Au même moment, dans une charge désespérée, le duc d'Alençon perce les lignes anglaises. De sa hache, il tue le duc d'York et frappe le home du roi d'Angleterre avant de périr, criblé de coups. Le combat touche à sa fin. L'arrière-garde française se débande. Henri V fait bouillir le cadavre du duc d'York pour ramener ses ossements en Angleterre. Il ordonne également que ces hommes n'emportent rien de plus que ce qu'ils peuvent charger sur le dos, car un trop lourd butin rendrait son armée vulnérable sur le chemin du retour. Pour la noblesse française, la bataille d'Azincourt est un désastre. L'élite du royaume est décapitée. Le cadre politique, administratif et militaire de la France est fragilisé. Ce combat particulièrement brutal annonce également la violence des engagements qui caractérise l'ultime séquence de la guerre de Cent Ans. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant la chronique littéraire « Un jour, trois livres » que Emmanuel nous a préparé. C'est Dalida qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons pour commencer l'un de ses tout premiers succès, c'était en 1956, « Bambino ».
La mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux avec tes cheveux si blancs.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire. Un jour, trois livres qui a été préparé par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par le dernier ouvrage ou l'avant-dernier ouvrage d'Éric Emmanuel Schmitt, La Rivale, c'est aux éditions Albin Michel. Pas facile d'être la rivale de la Calas. C'est l'histoire de Carlotte Berlumi qui, très âgée et complètement oubliée, n'en démord pas. Elle déteste celle qui lui a pris l'amour du public. Elle chantait comme un ange, le public l'adulait et la Calas est arrivée. Carlotta va raconter sa vie, ou plutôt leur vie, à toutes les deux. C'est ainsi qu'Éric Emmanuel Schmitt nous conte la vie secrète de la Calas, mais aussi le monde de l'opéra, de façon savoureuse. Un bel air d'opéra. La Rivale d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est aux éditions Albin Michel. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohant aux éditions Grasset. En Allemagne, l'International Tracing Service est le plus grand centre de documentation sur les persécutions nazies. En 1990, Irène, nouvellement embauchée, y découvre une vacation d'investigation. Presque 30 années plus tard, elle est investie d'une nouvelle mission. Restituer des milliers d'objets émanant des camps aux familles. Jouets, médaillons, mouchoirs. Pour elle, chaque objet est un cri et doit retrouver les descendants de son propriétaire. Cherchant les disparus, elle rencontre ses contemporains de Varsovie à Paris et Berlin, en passant par Thessalonique ou l'Argentine. À partir d'objets, pourra-t-elle reconstituer des vies, voire regrouper des membres d'une même famille? Le bureau d'éclaircissement des destins s'est signé Gaël Nohant et s'est publié aux éditions Grasset. Et pour terminer cette chronique, le dernier flirt d'Henri Matisse. Henri Matisse, atteint de graves problèmes digestifs en 1942, il a 72 ans, fait appel à une garde malade, ce sera Monique Bourgeois. Elle a 22 ans, elle est élève infirmière à Nice, elle va devenir sœur Jacques-Marie en religion. Et pour elle, il va consacrer 4 années de sa vie entre 1948 et 1951 à la conception et à la réalisation intégrale de la fameuse chapelle de Vence, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art pictural contemporain en France, vitraux, fresques, clochers, bénitiers et même chasubles. Si ses amis Aragon et Picasso notamment s'inquiètent de cette complicité totalement platonique, va naître cette merveille qu'est la chapelle de Vence, que je vous encourage d'ailleurs à visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est un lieu où résonne tout particulièrement l'art d'Henri Matisse. Le dernier flirt d'Henri Matisse, c'est signé Philippe Verdun et c'est publié aux éditions du Cerf. Ainsi s'achève cette émission Historama. C'est en chanson que nous allons nous séparer après avoir remercié Thomas qui a réalisé cette émission. Toujours Dalida avec un titre de 1959, Come Prima.
M'apporte ma joie de vivre et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi je t'aime comme on aime qu'une fois et je reste prisonnière, prisonnière. J'espère te le rendre quand
Hey.